amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante coproduit avec La Hacienda, la communauté des fans de Silicon Carnet. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 12 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Avant de commencer cette émission, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une belle, heureuse et picante année 2023 parce que comme le dit le dicton de La Hacienda, la vie sans piment ne vaut d'être vécue. D'ailleurs, en parlant de La Hacienda, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté des fans de Silicon Carnet. Ça se passe sur siliconcarnet.uncut.fm et ensemble, nous coproduisons cette émission et grâce à votre soutien, ce podcast peut rester libre et indépendant et ça, c'est génial. D'ailleurs, ce soutien il n'est pas seulement financier. La Hacienda, c'est avant tout une communauté d'esprit qui échange quotidiennement. Et cette semaine, j'ai proposé aux membres de préparer l'émission avec moi. Et ça donne un numéro absolument génial où vous allez pouvoir découvrir les prédictions tech, mais pas que, de La Hacienda et bien sûr de moi-même. Pour 2023, une émission donc en solo cette semaine où je vais tenter de me faire la voix des 253 membres de La Hacienda. Alors sans plus attendre, on plonge dans le futur et on fait le point sur ce qui pourrait bien se passer en 2023. Allez, place à votre épisode. Qui aurait bien pu prédire le rachat de Twitter par Elon Musk et ses rebondissements ou encore l'effondrement de FTX en 2022? Faire des prédictions dans le monde de la tech, c'est un peu un sport à haut risque. Pourtant, Silicon Carnet s'y colle cette semaine et vous n'allez pas être au bout de vos surprises. 2023 s'annonce comme l'année de tous les dangers avec une récession en toile de fond et les cartes de la tech qui risquent bien d'être redistribuées cette année. Alors, qu'en sera-t-il du Web3, des crypto, du métaverse, du monde en général? C'est ce que je vous propose de découvrir cette semaine, une émission unique qu'on revisitera bien entendu début 2024 pour voir si les membres de La Hacienda et moi-même avaient vu juste. Alors je me saisis de ma boule de cristal et je vous propose de découvrir les prédictions 2023 de La Hacienda. Alors, je suis sûr que la chose ne vous surprendra pas, mais le thème qui est arrivé en tête des prédictions de La Hacienda, c'est celui de l'IA, l'intelligence artificielle. On a d'ailleurs fait un super épisode à ce sujet avec Michel Meyer et Jeff Boudier sur ChatGPT, que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne l'avez pas encore écouté. J'ai reçu plein de feedback de votre part en me disant que l'épisode était génial. Et c'est vrai que j'étais assez fier quand je l'ai enregistré. Je savais que j'avais entre les mains de l'or. Et si vous n'avez pas encore tout compris à ChatGPT, et à l'importance et de l'avènement de cette intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui, c'est le moment de vous précipiter et d'aller écouter cet épisode. C'est vrai qu'on a effectivement l'impression que l'intelligence artificielle, c'est le sujet à la mode qui a un peu balayé tous les autres en fin 2022. L'année dernière, à la même époque, on parlait que de Web3, de blockchain, de NFT, de métavers, mais suite au déboire du monde des cryptos, le monde de la tech avait besoin d'eau fraîche pour se rafraîchir un peu la tête. Et elle a trouvé une sorte de cure de jouvence, si j'ose dire, une sorte de nouvelle icône à idolâtrer en la personne de l'IA, l'intelligence artificielle. Et le petit chouchou de la Silicon Valley, c'est OpenAI et ChatGPT. Et donc, face à la déferlante ChatGPT, Guillaume Dumortier, qui est membre de La Hacienda, lui prédit que Google va se mettre en code rouge cette année 2023 et mobiliser, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, toutes ses équipes pour effectivement trouver une réponse rapide et protéger son core business, parce que le core business de Google, c'est la pub sur les résultats de recherche. Et avec cette histoire d'intelligence artificielle, tout d'un coup, c'est toute l'expérience de recherche qui est complètement chamboulée et le modèle de publicité qui va avec, bien évidemment, et Google va devoir réagir. D'ailleurs, Valentin, lui, prédit même que Google par peur de voir son business model justement de sponsoring, de AdWords sur les résultats de recherche mis à mal, finissent par punir, c'est-à-dire il va baisser dans les résultats les pages qui auraient du contenu fabriqué par intelligence artificielle. C'est pas forcément idiot. On va le voir d'ailleurs, parce que toute cette intelligence artificielle, elle pose des questions, bien évidemment, sur la véracité, l'intégrité des contenus qui sont proposés aujourd'hui sur Internet. Et Google, comme une sorte de défense, pourrait pénaliser les contenus réalisés grâce à de l'intelligence artificielle. C'est une prédiction de Valentin. En tout cas, Guillaume Dumortier, lui, nous dit que Google passe en code rouge. Ça, c'est même pas une prédiction, c'est une réalité. Pour connaître quelques personnes chez Google, c'est absolument le cas. Et ça va être une année difficile, je pense, pour effectivement la firme de Mountain View, qui paraît, il faut l'avouer, un peu à la traîne sur le sujet. Pourtant, ils avaient un sacré coup d'avance, puisque ils ont été parmi les premiers à s'intéresser à l'intelligence artificielle. On se rappelle notamment de l'algorithme BERT, B-E-R-T, rien à voir avec Berthe au grand pied, mais c'était leur algorithme d'intelligence artificielle qui, d'ailleurs, est largement utilisé sur Google, notamment au sein de leur moteur de recherche, pour améliorer finalement leur core business, là où OpenAI, lui, propose une toute nouvelle expérience. Et il faut avouer, et encore une fois, on en a largement parlé dans l'épisode sur ChatGPT, que cette expérience, elle est absolument bluffante. Il introduit cette notion de prompt, c'est-à-dire de sorte de messages qu'on envoie à l'intelligence artificielle pour dialoguer avec l'humain, et ça révolutionne complètement les usages. On sait que d'ailleurs que Google n'est pas le meilleur pour lancer des nouveaux usages grand public. On se rappelle de Google Wave, Google Plus, Tango, Google Glasses, Stadia dans le domaine du gaming. Et on se dit que comment est-ce que Google va faire pour réagir face à OpenAI et le géant de Mountain View. Il est pour la première fois un peu mis à mal sur ce qui a fait son succès, c'est-à-dire le search. C'est vraiment une première. Tout le monde s'étonne de ça, parce qu'il y avait une sorte de situation monopolistique ultra puissante de Google qui, pour la première fois, on est très loin d'un vacillement, mais en tout cas se voit un petit peu mis à mal, c'est ça, oui, un peu challengé en fait sur son core business. Il était challengé sur d'autres business, mais pas sur le search, et là c'est effectivement le cas, surtout quand on sait que le principal partenaire technologique de OpenAI, c'est qui? C'est Microsoft. Et on sait très bien que Microsoft, il n'a pas avalé la pilule de cette défaite du moteur de recherche, notamment avec son moteur de recherche Bing. Et il rêve de faire renaître de ses cendres, tel un phénix, justement, Bing. Et d'ailleurs, on chuchote que Microsoft va payer très très cher pour que Bing soit la source officielle de OpenAI. Et d'ailleurs, comme le dit Damien Douany, ChatGPT a été la révélation de 2022. Et on annonce déjà que son prochain algorithme va être redoutable en 2023. Donc côté Google, c'est code rouge. Est-ce que Google, Damien disait, est-ce que Google est le futur Kodak? On n'en est pas là, mais on risque de voir effectivement en 2023 un Google vacillant qui va devoir en tout cas réagir et faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on va voir émerger une nouvelle guerre du search? Est-ce que c'est tout à fait possible? Et il y a Laura Bobkobza et Olivier Laborde qui, eux, pensent que Google va nous surprendre en 2023. Et ils parlent notamment d'un zéro-click search. Ça serait super intéressant. En sortant des résultats, d'ailleurs, meilleurs que ChatGPT, et qui nous permettent de nous connecter en temps réel aux informations. Et une chose que peut faire Google très très bien, c'est effectivement de mentionner les sources utilisées par son intelligence artificielle. Alors, est-ce que Google va réagir en 2023? En tout cas, il devra réagir. Et est-ce que, comme Laura et Olivier, la réaction de Google sera à la hauteur de OpenAI et de ChatGPT? On le leur souhaite. Mais on parle d'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, elle ne s'invite pas que simplement dans le search, elle est partout, et on va en voir un petit peu à toutes les sauces pendant cette année 2023. On pense notamment à AlphaFold, qui utilise l'intelligence artificielle notamment pour prédire la forme des protéines. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle, elle s'applique à plein de sujets différents, et on va voir de plus en plus d'utilisation de l'IA sur des usages, comme dit Laura, sérieux en 2023, même si pour moi, ChatGPT, c'est absolument sérieux ce qui se passe. En tout cas, cette technologie, elle nous promet des nouvelles et des surprises en 2023. C'est vrai que, en fait, ça fait des années qu'on nous dit, voilà, l'intelligence artificielle, ça va être génial, tu vas voir dans 5 ans, tu vas voir ce que tu vas voir. Et ben, aujourd'hui, on a l'impression qu'enfin, on touche du doigt la réalité. Et bien évidemment, c'est pas sans poser des questions. Il va être en effet de plus en plus dur de deviner ce qui a été créé par un humain ou par une machine. C'est vrai pour le texte, mais c'est aussi vrai pour l'image, la vidéo, peut-être même d'ailleurs le podcast. D'ailleurs, à ce sujet, je vous propose d'écouter cette vidéo édifiante d'un Morgan Freeman virtuel. La conversation et la voix ont été entièrement créées par une intelligence artificielle. Tout est complètement imaginaire et synthétique, et c'est à couper le souffle.
I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now.
Voilà, je mettrai le lien de cette vidéo dans les notes de l'émission. Si vous achetez le NFT, vous aurez accès aux notes de cette émission et elles sont nombreuses avec plein de liens qui m'ont permis aussi de réaliser cette émission et notamment une synthèse de toutes les prédictions de l'Hacienda avec le Google Sheet, avec toutes les prédictions des membres de l'Hacienda, mais aussi une superbe synthèse qu'a réalisée Ekal Soltani de toutes ces prédictions de l'Hacienda dans un PDF. Et si vous achetez le NFT, vous aurez accès aux documents. Et d'ailleurs, une partie du revenu de ce NFT sera partagée non seulement avec les communautés, mais aussi avec Ekal qui a fait un travail remarquable et que j'avais envie de saluer. Donc en bref, 2023 promet d'être une année où on va se poser plein de questions existentielles. Norbert Faure et Antoine Carrière pensent eux qu'on va avoir droit à une proposition de régulation dans le secteur de la publication de contenu qui va obliger les auteurs et surtout les éditeurs à lister les outils de génération de contenu utilisés à côté du nom des auteurs. Voilà une prédiction qui est faite par l'Hacienda qui va obliger donc les éditeurs à dire si un outil d'intelligence artificielle a été utilisé pour créer ce contenu-là et auquel cas le mentionner. Sur le même sujet, on a Benoît Gaillard, un autre membre de l'Hacienda, qui pense que l'intelligence artificielle va devenir le cas d'usage principal de la blockchain, qui en a bien besoin, face à l'abondance de contenu créé par l'IA, avec ChatGPT, Midjourney, DALL-E, etc., la crypto pourrait permettre d'authentifier et certifier les contenus, non pas générés par l'intelligence artificielle, mais générés par les humains, si tant est qu'il en reste encore. Ça, c'est mon point de vue, on verra. En tout cas, sur ce sujet, pas mal de membres de l'Hacienda ont une vision plus complexe. La guerre du search ne va pas se limiter à une bataille entre OpenAI, Microsoft et Google, mais pourrait voir aussi l'émergence de solutions plus décentralisées et open source. C'est Christian Bellala, lui, dit que l'ouverture de ChatGPT au grand public va être un échec colossal en 2023 et va créer des soucis d'éthique et de protection des données. Et il prévoit, lui, une version plus individuelle qui permettrait à chacun d'avoir son propre ChatGPT qu'on entraînerait nous-mêmes. Pourquoi pas, c'est déjà un petit peu le cas d'ailleurs, si vous utilisez ChatGPT, en fait ChatGPT, moi je le fais quotidiennement, c'est devenu un outil de mon quotidien, je me rends compte qu'il apprend en fait de ce que je lui dis. Je l'utilise notamment pour Uncut, et quand je lui dis de parler d'Uncut, j'ai plus besoin de lui expliquer ce qu'est Uncut. Il sait déjà ce qu'est Uncut, il a déjà gardé en mémoire de l'information et du contexte sur Uncut, et il l'utilise dans les recommandations de contenu qu'il me fait. Alors bon, si on est tous avec notre propre outil d'intelligence artificielle et que on entraîne notre propre IA, est-ce que ça risque pas de renforcer une forme d'isolement des utilisateurs qui vont vivre dans une sorte de nouvelle chambre d'écho, mais cette fois, elle sera plus sociale, cette chambre d'écho, elle sera même, voire psychologique, une sorte de camisole intelligente, pas sûr qu'on survive à cela. Voilà ce qu'on avait à dire, en tout cas, sur l'intelligence artificielle. C'est le sujet pour 2023, celui qu'il va falloir observer, et je pense qu'effectivement, on n'est pas au bout de nos surprises. Allez, encore une prédiction. Alors, un autre sujet qui a été pas mal débattu dans la Hacienda, c'est celui de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle et notamment du métaverse. C'est vrai que, comme l'IA, ça fait des années qu'on nous dit « dans 5 ans, tu vas voir ce que tu vas voir ». Alors, on a beau avoir enfilé les casques, ben on n'a pas vu grand-chose d'intéressant jusqu'à présent. Moi, je me rappelle, mes filles, il y a 5 ans, justement, on leur avait offert un casque de réalité virtuelle. Elles l'ont essayé, elles ont fait mumuse pendant 30 minutes. L'appareil a fini dans un placard et elles n'y ont jamais pu retoucher. Mais en tout cas, il y a une rumeur qui circule en ce moment dans la Silicon Valley et tout le monde s'accorde à dire que bah il va se passer quelque chose en 2023. Apple semblerait travailler à sa propre version d'un casque ou d'un iPhone Glass, on ne sait pas trop, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est un bon moment parce que Mark Zuckerberg fait un peu machine arrière en ce moment. Il réalloue pas mal de la grande partie du budget qu'il avait consacré au métavers, je crois que c'était aux alentours de 10 milliards. Aujourd'hui, il est en train de le réallouer à d'autres parties du business. Et on voit aussi un Microsoft qui met les bouchées doubles et qui prépare une nouvelle version de HoloLens. Mais Loïc Bardon de la Hacienda, lui, pense que le gagnant, ça sera Apple. Apple qui maîtrise, comme on le sait, à la perfection le time to market. Et un Apple qui, selon Loïc, attendrait 2024 pour tester et récupérer du feedback en sous-marin auprès de sa communauté de tech lovers pour lancer son casque. Apple prépare en 2023 une stratégie super agressive pour lui qui vise à préparer finalement les développeurs d'applis de réalité augmentée pour lancer son offre début 2024. Donc lui, pour Loïc, il pense que l'annonce sera faite fin 2023. Moi, personnellement, je pense que l'annonce sera plutôt sur 2023. Moi, je pense qu'Apple va annoncer son casque de réalité mixte en 2023, mais qu'effectivement, il ne sera pas disponible pour les consommateurs immédiatement. Il pourrait annoncer le casque lors de la conférence annuelle de la Developer Conference qui a lieu en juin, afin de le donner d'abord aux développeurs qui vont créer des logiciels avec, et que le lancement public, bah moi, je le prévois plutôt fin 2024. D'ailleurs, je vous conseille du coup d'économiser parce que je pense que le prix avoisinera les 3 000 $. Et au début, les ventes seront lentes jusqu'à ce qu'Apple trouve le moyen de réduire le coût du device. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs, hein, si on se rappelle le MacBook Air, ce MacBook ultra fin, qui, quand il était sorti il y a un peu moins de 10 ans, valait 1 800 $ et qui aujourd'hui coûte 1 000 $. On risque de voir à peu près la même stratégie avec le casque de réalité mixte de Apple. Mais en tout cas, c'est certain que ça va changer un usage qu'on attend un peu comme l'intelligence artificielle depuis longtemps. Loïc Bardon nous explique que grâce au monde virtuel, les adolescents construisent, collaborent, s'expriment, apprennent, se socialisent en permanence. Et en 2023, bah, ce nouveau mouvement œuvrera pour que les consommateurs préfèrent acheter des biens digitaux plutôt que des biens physiques. Donc c'est ce qu'ils pensent, qu'en fait c'est que on va avoir ce phénomène de basculement en 2023 où finalement bah, les jeunes, notamment la Gen Z et la génération Alpha, puisque c'est le nom de la nouvelle génération, préférera qu'on leur offre un skin par exemple sur Fortnite plutôt que un pantalon Levi's ou autre chose, une autre marque. En parlant d'adolescents, Damien Douani, lui, prédit d'ailleurs que Snap va se lancer corps et âme dans la bataille de l'augmented reality, dans la réalité augmentée. Notamment, et c'est pas idiot, hein, parce qu'ils ont une technologie de filtre qu'on pourrait voir appliquée à la vraie vie. Vous imaginez qu'en fait, ça serait assez hallucinant qu'en fait, qu'on utilise ce casque de Apple et que bah, la vie en face de nos yeux se modifie. Il pleut, bah, donc on passe le casque en mode soleil et puis peu importe qu'en fait qu'il pleuve ou pas, qu'il fera beau. En tout cas, vous verrez le paysage comme s'il faisait beau. Et Damien parle aussi d'une expérience très intéressante avec la réalité augmentée. D'ailleurs, je prépare un épisode de Silicon Carnet sur ce sujet. Il parle de l'expérience de l'au-delà numérique qu'on risque de voir débouler en 2023, grâce notamment à la combinaison de deux technologies, la technologie d'intelligence artificielle et justement cette technologie d'augmented reality, de réalité augmentée. C'est vrai que si ces deux technologies se télescopent, on va pouvoir faire... De quoi est-ce qu'on parle là ? Mais c'est faire revivre des gens après leur mort. Il y avait eu des expériences qui avaient consisté à récupérer des conversations de SMS avec des défunts et de les intégrer dans un outil d'intelligence artificielle. Et on imagine tout à fait ça avec ChatGPT. Et pour continuer la conversation post-mortem, si j'ai envie de dire, et de voir, en fait, et de pouvoir perpétuer les interactions sociales, notamment. Et le résultat était assez bluffant. Hein. C'est effectivement, on peut reprendre les tics de langage, on peut reprendre les expressions, la façon de communiquer. Maintenant, rajouter là-dessus de la réalité augmentée, et vous avez non plus simplement du texte, mais vous avez du son et l'image. Alors là, on est face à quelque chose d'assez spectaculaire. Et lui, Damien, pense que c'est pour bientôt. En tout cas, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que je pense qu'on va pas y échapper parce que ces deux technologies vont forcément s'imbriquer les unes dans les autres. Et que là, on a un usage assez intéressant qu'on pourrait utiliser sous un format éducatif. Repartir et revenir au temps de Napoléon et avoir une discussion avec Napoléon sur sa politique et d'être complètement immergé dans l'univers et dans l'ambiance en fait de l'époque, ça serait sur un plan éducatif très très intéressant. Là aussi, des questions éthiques, est-ce que tout ça sera réglementé, mais de là à faire revivre les morts, ou en tout cas de garder une trace de soi-même après sa mort et être en capacité de continuer la conversation avec ses proches, on en est pas loin. En tout cas, une autre idée intéressante qui est avancée par Benoît, c'est l'opportunité pour l'État, et je ne sais pas s'il a compris, de réinventer le service public grâce notamment à la réalité augmentée et la réalité virtuelle et le métaverse. En parlant du métaverse, d'ailleurs, Ecal pense que les acteurs actuels vont se tirer une balle dans le pied en 2023. On risque de voir mourir un des acteurs. Alors, est-ce que ce sera The Sandbox ou Decentraland ou un acteur comme ça, mais pour lui le décollage il ne se fera pas sur le marché du B2C et il risque de se faire plutôt sur le marché du B2B. Bon, ça on le dit déjà depuis un petit peu depuis pas mal de temps et j'ai l'impression qu'on voit rien décoller que ce soit ni sur le B2C ni sur le B2B. Je pense que tant que Apple n'a pas commoditisé cette technologie, proposé une expérience supérieure, je vois pas comment ça peut décoller. Perso, ma prédiction c'est que je pense qu'il ne va rien se passer du tout, ni sur l'augmented reality, ni sur la virtual reality et le metaverse avant 2025. On aura peut-être des annonces de produits de Apple cette année, peut-être même des produits disponibles d'ici la fin de l'année, mais en tout cas en termes d'usage et d'explosion de ces usages, moi personnellement je vois rien avant 2025. Allez, autre sujet. Un autre sujet, il a été aussi beaucoup question de climat dans nos prédictions 2023 de la Hacienda. Il était temps que la tech d'ailleurs se réveille sur le sujet. D'ailleurs, je vais préférer une émission sur le sujet de la climate tech parce que perso, je suis pas encore certain que la Silicon Valley a pris la mesure de l'opportunité. En tout cas, l'année 2022 a vu la création de dizaines, voire de centaines de startups dans le domaine de la climate tech et notamment dans ce qu'on appelle le carbon accounting, c'est-à-dire ces startups qui proposent de faire le calcul du nombre de CO2 dépensé. Et ces nouveaux acteurs se positionnent en concurrence avec les boîtes traditionnelles de consulting. La demande du marché pour ce genre de services, c'est-à-dire ces sortes de bilans carbone, est en forte croissance. Mais une des prévisions de la Hacienda, c'est de penser qu'on va voir émerger une grosse start-up sur le sujet qui va faire un peu le ménage et qui va récupérer la mise. En tout cas, avec la récession généralisée qui a débuté en 2022, les investisseurs ne cachent pas qu'ils recherchent désormais des investissements plus sûrs. dans un marché difficile avec des taux d'intérêt plus élevés, c'est pas une surprise. Et visiblement, c'est la climate tech qui profite de la situation. Donc, dans ce monde incertain, s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est le changement climatique. Et les preuves scientifiques s'accumulent pour démontrer que ce changement climatique, il est non seulement en train de se produire, mais qu'en plus, les conséquences pourraient arriver plus tôt et être plus graves que prévu. Et on voit les gouvernements du monde entier adopter des positions de plus en plus courageuse, agressive, même s'il reste beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le changement climatique. En tout cas, les lois changent, les politiques sont un peu poussées à l'action. Et effectivement, je pense que les investissements vont exploser en 2023 dans le secteur des VC. Et je suis pas le seul à le penser. Il y a beaucoup de gens dans la Hacienda qui pensent la même chose. Et parce que, pourquoi? Parce que la climate tech, c'est recession proof, quoi. Il y a vraiment un truc qui est sûr, c'est que là, il y a un vrai problème à régler. Et je pense que les investissements mondiaux dans le domaine vont dépasser les 30 milliards. C'était 25 milliards en 2022. Et je pense qu'on va être beaucoup plus haut en 2023. Mon pronostic, c'est 30 milliards. Allez, on prend les pronostics, on en reparle fin 2023 pour voir si j'avais raison ou pas. Alors, bien entendu, il y a aussi tous les véhicules électriques. On annonce déjà 50 nouveaux modèles de véhicules électriques pour 2023, avec des modèles plutôt exotiques comme chez Tesla, le Cybertruck qui devrait sortir. Et puis, il y a même Hummer qui pense sortir un Hummer électrique. Et puis, il y a les pick-up chez Chevy, il y a le Silverado, et chez Ford, le Ford 150 qui devrait sortir. Et donc, du coup, ça va faire exploser en 2023 le marché des stations de chargement. On va voir de nouveaux acteurs apparaître. Et c'est un marché qui risque de chambouler aussi le marché de l'immobilier en 2023. On voit d'ailleurs, notamment beaucoup d'enseignes utilisent leur parking maintenant comme des stations de chargement. Il y a un nouveau service à fournir et Pascal Joly, lui, dit dans la Hacienda qu'il faut s'attendre à un gros boom sur ce secteur-là et je suis assez d'accord avec lui. Et il y a aussi un autre truc que dit Pascal qui est très intéressant, c'est que enfin les technologies de capture de CO2 directement dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les DAC, DAC, vont se multiplier en 2023. Pour l'instant, elles étaient trop coûteuses, trop gourmandes en énergie. Et 2023, c'est l'année où enfin, on va voir apparaître des solutions viables pour combattre le réchauffement climatique. Et quand on lit le dernier rapport du GIEC, on se dit qu'effectivement, il y a urgence, donc des technologies de capture de CO2 feront sans doute partie du portfolio des solutions qui permettraient de limiter le réchauffement à 2 degrés, puisque c'est l'objectif. Donc si vous voyez des startups dans ce secteur-là, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors 2022 était l'année des prototypes et des proof of concept en la matière. On se rappelle notamment celui de Climeworks en Islande. Et 2023, ça sera l'année où on passe à la vitesse supérieure avec des applications qui démontrent que le coût par tonne de CO2 capturé peut être enfin compétitif et on pourra même voir de sorte de reconversion de ce CO2 en d'autres ressources, que ce soit du synthetic fuel ou de la minéralisation. On verra. En tout cas, une année prometteuse en 2023, une prise de conscience, beaucoup plus d'investissement et je vous invite, et la Hacienda aussi, à jeter un coup d'œil à toutes les technologies DAC de capture de CO2 directement dans l'atmosphère. Voilà, on arrive à la fin de cette première vague de prédictions 2023 de la Hacienda. On a parlé d'intelligence artificielle, bien sûr. On a parlé de réalité augmentée, de réalité virtuelle, du métaverse et du climat. Mais c'est pas fini. Restez avec nous parce que, bien entendu, on va parler de Web3, de crypto, mais aussi de social media et de l'économie en général. Si vous appréciez cet épisode, vous pouvez acheter le NFT de l'émission. C'est une façon originale de manifester votre intérêt et aussi de rejoindre la communauté des fans de Silicon Carnet. Et en achetant le NFT, vous aurez accès à toutes les prédictions de la Hacienda et à la synthèse de Eikal, la synthèse PDF, qu'en fait, elle sera dans les notes de cette émission. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à travers vos réseaux sociaux. Je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. We'll be right back. Voilà, on continue l'exercice. Alors, bien évidemment, on parle du monde des cryptos dans cette deuxième partie. Je sais que vous l'attendez. Après une année 2022 catastrophique, eh bien, la Hacienda ne se montre pas très optimiste quant à 2023. Comme le dit Damien, les NFT ont été pour beaucoup une manière ludique de comprendre les usages des cryptos et de la blockchain. Mais la fièvre va se calmer encore. Enfin, elle s'est déjà beaucoup calmée en 2022. Et on va rentrer dans une phase de maturité en développant des nouveaux usages. Je pense que nous, on l'a déjà fait sur Silicon Carnet. Vous le voyez, les NFT, c'est pas simplement des pins hein, que vous collectionnez. Il y a de véritables utilités derrière. On est en train de construire une communauté. Ça permet véritablement de construire une communauté qui contribue, qui participe, qui coproduit et puis accéder aussi à des informations. Et voilà, il y a une vraie utility, comme disent les Américains, derrière ces NFT. Et c'est pas simplement des digital collectibles. Côté crypto, je pense que l'année 2022 a été une énorme claque. Je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode sur la catastrophe FTX qu'on avait enregistré avec Camille Lambert et Frédéric Montagnon. Malheureusement, et merci Sam Friedman hein, là-dessus, je pense que le grand public se dit que le secteur est pourri, quoi, en fait, qu'il est rempli de criminels. Il n'y a pas forcément tort, qui vole les fonds des clients et qui trompe les investisseurs. Et on ne voit pas le gouvernement en Europe, mais ici aussi aux États-Unis, faire grand-chose, rien. On n'a rien vu véritablement se passer. Et il n'y a toujours pas de cadre juridique ou de législation claire à suivre pour les entreprises de crypto. Et je ne pense pas qu'on va voir quoi que ce soit émerger en 2023. Personne au Congrès, en tout cas ici aux États-Unis, n'arrive à se mettre d'accord sur une loi quelconque. On a l'impression que c'est un peu comme demander aux enfants ce qu'ils veulent pour manger, quoi. En fait, ils vous répondent des nuggets de poulet et puis l'autre répond de la crème glacée, quoi, en gros. Donc, personne n'arrive à se mettre d'accord. Et la SEC, qui est le sort de l'AMF, qui correspondrait à l'AMF en France, semble se concentrer sur d'autres sujets, hein, comme celui des Kardashians, par exemple, hein, et de coller des amendes un petit peu à droite, à gauche, notamment à toutes les célébrités qui ont fait la promotion des cryptos pendant 2022, plutôt que de se concentrer sur poursuivre les véritables criminels, même si, à l'heure où je parle, Sam Friedman est devant les tribunaux à New York et il semblerait qu'il plaide non coupable. Rien que ça. Donc bref, n'attendez pas, en tout cas c'est ma prédiction, de cadre réglementaire pour 2023 sur le sujet des cryptos. Ça sera une année de plus sans législation sur les crypto-monnaies. Quant aux cryptos, l'année dernière, je disais à mes potes que le Bitcoin atteindrait 100 000 dollars fin 2022. Je me suis bien planté. Du coup, cette année, je vais dire le contraire, en espérant encore une fois me tromper, mais malheureusement, je pense que cette fois, je risque bien d'avoir raison. Et à mon avis, l'Ethereum et le Bitcoin vont encore perdre au minimum 50% de leur valeur. Alors, je sais, vous allez me dire, l'Ethereum est déjà en baisse de 75% par rapport à son sommet de 2021. Le Bitcoin aussi, ça peut pas être pire. Eh bien, je vous rappelle qu'en 2017, le Bitcoin, il avait chuté de 85% et l'Ethereum de 93% en 2018. Alors, j'ai bien peur que l'histoire se répète. Alors, même si les cryptos remontent un petit peu en ce moment, je pense que la chute n'est pas terminée et qu'on risque de voir effectivement, une baisse encore conséquente. Mon pronostic, encore 50% de baisse et peut-être une remontée sur la deuxième partie de 2023. Alors, même si les cryptos vont continuer à se casser la gueule, je pense que pour ma part, le modèle Web3 et la technologie blockchain va continuer, elle, à s'imposer et elle va commencer à mettre à mal des acteurs du Web2 en 2023. Damien Douany, d'ailleurs, explique que les plateformes sociales historiques survivent de moins en moins à l'obsolescence de leur modèle. Twitter, il a vraiment un coup dans l'aile suite à son rachat par Elon Musk et aussi à l'incapacité d'Elon Musk invisible de gérer la plateforme sans faire de vagues. Et il y a un vote mondial. On lui a dit que ça serait bien qu'il dégage de son poste de CEO. Il a fait une sorte de vote comme ça auprès de sa communauté, de la communauté Twitter. Et je pense que cette histoire de nouveau CEO, et Damien est d'accord avec moi, elle va se solder par un échec majeur. Et Facebook et Instagram, Mais eux aussi, c'est pareil. On va voir en 2023 leur empreinte économique se réduire sensiblement, petit à petit. Alors, bien évidemment, Rome n'est pas tombée en 15 jours hein, et ça va prendre du temps. Mais disons que 2023, c'est le début du déclin des géants du Web 2, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram. On a l'impression que pour l'instant, il n'y a que WhatsApp qui semble résister. Il y a aussi des rumeurs. Il y a un truc... pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il est possible, tiens, je fais un pronostic, une prédiction, que Facebook lance un concurrent de Twitter en 2023. Allez, je fais ce pronostic-là. Ou pourquoi ? Parce que Facebook, pour des questions de monopole, ne peut pas aller racheter personne d'autre, ne peut pas aller racheter Mastodon, par exemple, qui est un peu la plateforme alternative à Twitter de manière décentralisée. Et donc, je ne serais pas étonné qu'ils lancent quelque chose. Et puis, on va voir un Twitter 2 avec Jack Dorsey, ça c'est évident, qui est en train de bosser à sa propre version d'un Twitter complètement décentralisé. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, et ça c'est ma prédiction pour 2023, on n'en a pas parlé dans l'Hacienda, mais c'est que je pense qu'en 2023, les gens vont commencer à comprendre qu'on est face à un véritable problème, un gros problème. Je pense que l'Internet est clairement menacé. Il suffit de regarder le fiasco de Twitter au cours de ces dernières semaines. Il y a les journalistes qui se font virer de la plateforme. Maintenant, on a la preuve que le contenu de certains utilisateurs était filtré. On a aussi des utilisateurs qu'on ne peut pas poster des liens qui font la promotion de sites concurrents à Twitter sans être bannis. Il y a Paul Graham, par exemple, qui est une légende de la Silicon Valley qui en a fait les frais il n'y a pas longtemps. Et puis, les gens commencent un peu à en avoir ras-le-bol de ce monopole de ces grosses plateformes. Et je pense qu'on va commencer à voir poindre du nez quelque chose qu'on répète, en tout cas dans le monde de la blockchain depuis longtemps, c'est ce besoin de décentralisation, parce que c'est pas que Twitter, encore une fois. Je mets dans l'eau Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, tous les autres, qui font preuve de censure quotidiennement et qui monétisent nos données. Et voilà, les gens, je pense, en 2023, ça va être l'éveil des consciences et de se dire que c'est pas possible que ces plateformes traditionnelles sont devenues un peu comme des banques qui gèrent notre argent, et on sait qu'on peut pas tout faire avec notre argent. Ces plateformes traditionnelles, elles gèrent nos datas et elles contrôlent toutes nos datas, et qu'on va voir apparaître des acteurs et un modèle beaucoup plus décentralisé, et notamment dans le domaine du social media, mais pas seulement que dans le social media, ça pourrait être dans plein d'autres outils, voir émerger. C'est un modèle différent de l'open source. Je ne suis pas en train de parler d'open source, hein, je suis vraiment en train de parler de modèles décentralisés qui, bien évidemment, se combinent plutôt bien avec des modèles open source. Donc 2023, l'année de la décentralisation, c'est mon pronostic. Ok, on continue et je vous propose de passer au volet économique. Et bon, alors là, j'ai vraiment pas des bonnes nouvelles pour vous. Je discutais avec plusieurs start-upeurs en fin d'année qui me disaient qu'ils étaient super contents que l'année se termine. Moi, je suis pas d'accord parce que j'ai bien l'impression que 2023 va être bien pire que 2022. Il y a une récession qui se profile. D'ailleurs, l'émission de la semaine prochaine ne va traiter que de ce sujet. Comment est-ce que les startups doivent agir et se préparer à la récession qui se profile? Et puis, on voit tout un tas de licenciements qui ont eu lieu un peu partout. Et les 6 derniers mois ont été très chaotiques, très stressants, très incertains. Certains d'ailleurs ont paniqué. Mais je pense que c'est pas fini et qu'on va voir continuer cette dégringolade. Dites-vous que là, les fêtes, ça a été une sorte de trêve de confiseur et que les hostilités se sont interrompues pendant les fêtes. Mais pour ma part, je pense que les hostilités vont reprendre. Quand on regarde les valorisations, elles sont en chute libre. Il est de plus en plus difficile de lever des fonds. Les financements structurés sont de plus en plus à la mode. Les budgets qui ont été décidés cet été, pour en connaître quelques-uns dans les grosses boîtes, ils sont à la baisse, mais vraiment très, très réduit. Et il y a une stat intéressante, c'est que les commerciaux sont incapables, visiblement, il y a plus de 80% des commerciaux qui, sur le dernier trimestre de 2022, ont été incapables de faire leur quota. Rajoutez à ça des taux d'intérêt qui s'enflamment et qui ne permettent plus aux entreprises de rembourser leurs dettes. Donc, Antoine Carrière, notamment de l'Hacienda, lui prévoit que les taux directeurs US, ils vont continuer de grimper pendant quelques mois et qu'ils ne baisseront pas avant la fin 2023. Je suis assez d'accord avec lui. Alors, même si on a vu de nombreux licenciements dans le monde de la tech ces derniers mois, je pense que malheureusement, la saignée est loin d'être finie et que ça va encore faire mal et que les budgets 2023 ne sont pas terribles. Et je pense qu'il faut se préparer à de nouvelles vagues de licenciements, en tout cas ici dans la Silicon Valley, dès la fin du mois de janvier. Et si c'est pas plutôt, même peut-être dès la semaine prochaine, on en reparle, c'est mon pronostic, on verra. Donc un pronostic très très court terme. C'est intéressant de constater d'ailleurs que pour la première fois, ce sont les emplois à forte valeur ajoutée et les cadres du tertiaire qui sont les plus touchés par la crise actuelle. Il y a une pénurie d'emplois dans les restaurants, dans les transports, dans tout un tas de trucs comme ça. Et là, ceux qui sont véritablement touchés par la crise en ce moment, c'est les travailleurs du savoir, comme on disait. Et ça, c'est assez intéressant à observer. Paradoxalement, tous ces licenciements, moi, je pense que ça, c'est un de mes pronostics, va permettre aussi d'accélérer la transformation digitale des entreprises. J'avais cette conversation avec un consultant en RH qui me disait, oui, il y a plein de licenciements, mais ces licenciements, les gens ne vont pas forcément retrouver des boulots dans la tech. Et ça pourrait bien bénéficier d'autres secteurs plus traditionnels, notamment dans le monde de l'industrie. On va voir des transferts de talents. Et ça pourrait venir accélérer justement cette transformation digitale. C'est pas con. Ça peut être intéressant de voir ça. Et on a besoin de cette transformation digitale. Tout est digital. Donc, pourquoi pas de voir ce transfert de talents, voir des gens passer du monde de la tech à des secteurs plus traditionnels. Il y a Camille Lambert, elle va encore plus loin et elle prédit en 2023 la chute d'un acteur mondial en fonds de pension. Imaginez un BlackRock, un Citadel ou un Renaissance. Elle dit que, imaginons qu'un de ces acteurs perde pied, quoi, en fait, et 50% de sa valeur disparaisse. Ça entraînerait la vente massive de certaines de ses participations. Ça déstabiliserait bien évidemment toutes les bourses mondiales quand on connaît leur taille. Et ça ferait aussi baisser, parce que ces fonds de pension, c'est ceux qui sont utilisés pour payer les retraites des Américains. Donc du coup, baisse des retraites des Américains, donc baisse de la consommation. Wow, c'est le scénario catastrophe là que nous présente Camille. Et donc, il y aurait plus de crédit à la consommation qui serait utilisé. Bref, si on est dans ce scénario-là, la crise des subprimes, elle risque d'être un mini-choc à côté de tout ça. Bon, en tout cas, scénario catastrophe de Camille annoncé pour 2023. On va voir aussi plein de nouvelles startups se lancer en 2023. Moi, je suis très, très optimiste là-dessus. On a un nombre record de talents entrepreneuriaux qui sont disponibles pour créer les nouvelles startups. Alors, bien évidemment, ça ne va pas être simple hein, et ça va être dans une conjoncture difficile et ça ne sera pas les touristes, mais on va voir plein de talents disponibles et qui ne trouveront pas ce transfert de talents dont je parlais, de la tech vers des secteurs traditionnels. Il y a des gens qui ne voudront pas aller dans le secteur traditionnel et qui voudront rester dans la tech et qui n'auront pas d'autre choix que de créer leur startup. Et il y a aussi un nouveau phénomène qu'on risque de voir apparaître, c'est qu'on va voir de nouveaux talents, notamment de la Gen Z. Cette Gen Z qui d'ailleurs n'est pas la dernière génération. La dernière génération, c'est la génération alpha. Et bien, cette Gen Z, elle arrive aujourd'hui sur le marché du travail pour la première fois. Et avec tous ces talents licenciés et cette Gen Z qui arrive sur le marché du travail, qui va avoir des difficultés à trouver du boulot, ben on risque de voir là, tout d'un coup, plein de startups se créer. En tout cas, moi, je suis super excité en tant qu'investisseur. Et puis, on va voir aussi plein de monde dans les startups qui, aujourd'hui, certes, étaient payés grassement, avec leurs salaires qui ne vont pas évoluer, mais aussi avec leurs stock options. Ils vont se rendre compte que leurs stock options ne valent plus rien puisque toutes les valorisations sont en train de se casser la gueule. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, si mes stock options ne valent plus rien, autant que je crée ma propre boîte. Donc moi, je pense qu'en termes d'investissement, notamment comme moi qui suis un investisseur précis des seeds, le millésime 2023, et j'en parlais avec mon partenaire Marvin Liao, va être exceptionnel. Côté VC, Antoine, lui, il prévoit que les investissements vont continuer à baisser. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode de la semaine prochaine avec El Professeur, Pierre Gobil qui arrive, et Ben Marel du fonds Brega. Et je confirme, Antoine, ils ont à peu près la même vision que toi. Et lui, Antoine, mise sur une baisse de 40% par rapport au pic de 2021, avec des valos en baisse de 70%. En moyenne, ça va faire mal. Donc, 40% de moins d'investissement et des valos en baisse de 70%. Alors, c'est le moment d'investir en ce moment, effectivement. Mais pour côté startup, il va falloir apprendre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Laura. Est-ce que c'est pas la fin de l'ère des licornes? Oui, Laura Bokobza, peut-être. C'est certainement le cas. Moi, j'en suis assez convaincu et je pense que le temps des cafards est arrivé en effet. Bon voilà, je pourrais continuer comme ça pendant des heures tant les échanges dans l'Hacienda ont été riches. Et je vous invite vraiment, si vous voulez avoir accès à toutes les prédictions de l'Hacienda, de faire l'acquisition du NFT et vous aurez l'intégralité des prédictions de l'Hacienda. Mais je voulais citer quelques prédictions en vrac intéressantes qui ont été faites pour 2023. Je reviens sur Camille qui nous disait tout à l'heure qu'un fonds de pension allait péricliter en 2023. Et elle prévoit aussi la mort de Warren Buffett en 2023, Camille. Bon, voilà. Donc, on prend les paris. Elle nous a souhaité la mort de Warren Buffett. Elle ne l'a pas souhaité, mais en tout cas, elle la prévoit pour 2023. Et donc, cette mort et cette succession de Warren Buffett entraînerait une sorte de Green God. C'est-à-dire qu'en gros, la nouvelle direction de Berkshire, qui est le fonds de Warren Buffett, vendrait toutes ses participations dans les industries polluantes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'investissements, notamment dans le pétrole, du côté de Warren Buffett, ce qui entraînerait plein d'une sorte de mini-crack quoi, dans le secteur, et une bulle green qui apparaîtrait en 2024. Donc bref, ça c'est la pronostic de Camille pour 2023, un changement de non seulement après la mort de Warren Buffett, de la stratégie de Berkshire. Il y a aussi beaucoup de débats autour de Elon Musk, on sent que le personnage vous passionne. Laurent Grigé nous dit que lui, Elon, va péter un plomb en 2023 et qu'une de ses sociétés, est-ce que ce sera Tesla ou SpaceX, va sombrer et que lui, il prévoit même que SpaceX se fasse racheter par la NASA. Je ne sais pas s'ils en ont vraiment les moyens de racheter SpaceX parce que cette semaine, SpaceX a annoncé une nouvelle levée de fonds avec une valorisation record de SpaceX à 137 milliards de dollars. Voilà, sur un plan plus politique, on nous explique aussi que les GAFAM, elles ont réveillé l'Europe et que l'Europe se voit maintenant une sorte de Don Quichotte et se met dans une sorte de dynamique réglementaire après le succès du RGPD. Et c'est Damien qui nous parle de ça, notamment. Et que tout d'un coup, l'Europe va être le grand régulateur de l'Internet et notamment des intelligences artificielles et va proposer tout un tas de cadres de protection juridique, politique, économique. Bref, c'est l'Europe qui régule. Ça serait intéressant de voir justement, en tout cas, le débat va faire rage en 2023. Sur le plan géopolitique, Norbert, lui, prédit que Vladimir Poutine va faire pression sur la Biélorussie pour attaquer l'Ukraine et créer un nouveau front. La Pologne va s'armer. Je rappelle que la Pologne, elle est d'ailleurs en train de s'armer à une vitesse exponentielle et que ça en fait presque d'ailleurs la première puissance militaire en Europe. Et que la zone Ukraine-Biélorussie-Pologne risque de devenir la zone explosive, si tant est qu'elle ne l'est pas déjà, et qu'on est à deux doigts d'un conflit total. Voilà ce que nous dit Norbert. Là non plus, vous n'êtes pas très optimiste pour l'année 2023. Bon voilà, tout ça nous présage donc pas une très belle année 2023. En tout cas, je vous rassure, je pense que 90% de ce qu'on a dit ne se produira pas, ou en tout cas pas tout de suite. Et pour finir sur une petite touche d'humour, je vous invite à aller lire les prédictions 2023 de Dimitri Medvedev. Ça vaut son pesant de cacahuètes, et dans cacahuètes, il y a le mot caca. Donc, je vous invite vraiment à aller les lire. C'est à se pisser dessus, puisqu'il prévoit même la résurgence du Troisième Reich. Donc voilà, et avec une Allemagne qui va envahir la France, bien évidemment. Allez, encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Faites pas attention à toutes ces prédictions. Et comme le dit et le prédit Benoît Gaillard dans l'Hacienda en 2023, l'homme risque d'être dépassé dans plusieurs domaines cognitifs et créatifs. Donc, il est temps de redéfinir ce qui fait l'humanité, et pour moi, ce qui fait l'humanité, bah, c'est l'empathie, c'est les relations sociales, c'est la capacité d'aimer les autres, les choses, et de créer des choses nouvelles, et de belles choses, si possible, ensemble. Donc, attachons-nous surtout à faire cela en 2023. Allez, hasta luego, amigos.